Bonjour à tous. Bienvenue à ce café littéraire, donc qui a pour titre « Injecter de l'histoire dans l'imaginaire ». On ira peut-être même jusqu'à injecter de l'imaginaire dans l'histoire, si on ose vraiment ce genre de tentative. Je vais commencer par vous présenter nos invités. Donc, à ma gauche, Jean-Laurent Del Socorro, donc qui écrit avec Royaume de vent et de colère son premier roman, donc qui a un cadre historique, à savoir la République de Marseille. À ses côtés, Adrien Thomas, pour Notre-Dame des Loups en particulier, qui là se passe aux États-Unis au XIXe siècle. À ses côtés, Geneviève Sanger, pour La dynastie des Weber, boum, qui vient de faire une chute, qui est une saga familiale qui se déroule sur un siècle, commençant en 1870. Et à ses côtés, Xavier Bruce, pour La République des Enragés, qui a là pour cadre mai 68. Alors, pour les auteurs de l'imaginaire ici présents, les romans dont on va parler sont leur première incursion dans le domaine de l'histoire. Mais pour vous, Geneviève Sanger, l'histoire, c'est un peu votre bac à sable habituel. Vous avez écrit plusieurs romans historiques. Qu'est-ce qui vous plaît dans la matière historique ?
Je crois qu'un écrivain, c'est une sorte de visionnaire. Alors, ceux qui s'occupent de science-fiction se projettent dans le futur. Ceux qui s'occupent de l'histoire en général sont des visionnaires du passé. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir s'emparer d'une matière qui est déjà formée et de pouvoir y injecter des personnages qui restent des individus, comme s'ils existaient aujourd'hui. Mais simplement, ils sont formés, ils sont un peu différents. Et selon la théorie qu'avait déjà Diderot, je me souviens très bien de Diderot parce que ça m'avait beaucoup frappé en première ou en terminale, je ne sais plus, qui disait que l'individu était déterminé par son enfance, mais aussi par sa naissance, par le lieu où il va habiter. Et par exemple, je m'occupe surtout de l'histoire de l'Alsace, parce que je suis née en Alsace et que l'Alsace a une histoire tragique, une histoire que les Français en général, comme disent les Alsaciens, les Français de l'intérieur ne connaissent pas. C'est une histoire qui est bouleversée et bouleversante, parce que l'Alsace a changé plusieurs fois de nation, a changé plusieurs fois de langue, et c'est pour ça que les Alsaciens sont tellement ancrés dans leur terre, dans leur terroir aussi, parce qu'à force d'être devenus français, allemands, redevenus français et redevenus allemands, ils ont décidé de rester alsaciens. Donc là, c'est déjà une singularité qui n'existe dans aucune région de France. Non, j'ai l'impression que l'Alsace est un pays à part, qui fait partie maintenant de l'Europe. Voilà.
Et là, dans votre dernier roman, vous avez choisi d'illustrer cette histoire alsacienne à travers l'histoire d'une famille.
Oui, c'est la famille Weber. Alors Weber, pour ceux qui savent un petit peu, moi je ne savais pas, je l'ai découvert en faisant ma documentation. Weber veut dire tisserand. Or, justement, ça tombe bien parce que la dynastie, enfin, le titre initial, c'était le fil d'or. Mais on m'a dit que ce n'était pas un bon titre et on m'a demandé de prendre un titre qui faisait plus saga. Parce que comme c'est une histoire qui se déroule sur un siècle, il fallait que ça donne une connotation de saga dans le titre. Donc j'ai pris la dynastie des Weber, et Weber veut dire tisserand. Et le fil d'or, enfin la dynastie des Weber, c'est une histoire d'industriel du textile, donc de 1871 à nos jours, à peu près. Donc un siècle d'histoire du textile à travers des individus, et à travers surtout Lazare Weber, qui va hériter d'une petite manufacture à Mulhouse, en épousant Louise, et qui va transformer cette petite manufacture en grand complexe industriel. Voilà.
Donc il y a une histoire donc de l'Alsace, mais aussi une histoire des individus. En fait, cette jeune fille qui l'épouse, c'était pas la fille qui lui était destinée. Et donc vous allez même aller jusqu'aux États-Unis en fait pour suivre cette famille, cette vaste famille et ses différentes branches.
Oui, c'est ça, parce que Lazare a l'histoire commence mal. Lazare aurait dû épouser Lucie, mais Lucie, un jour, a eu le coup de foudre pour un négociant en coton louisianais et elle a quitté et elle a rompu ses fiançailles et elle a quitté donc sa famille pour épouser ce négociant juif de Louisiane. Et donc elle a rompu avec sa famille, elle a rompu aussi avec sa sœur. Et donc la deuxième fille, Louise, est donc obligée d'épouser Lazare. Et ce fil d'or, c'est aussi cette quête de Lazare à trouver l'exacte couleur de la chevelure de cette fille qu'il a tellement aimée. C'est pour ça que ça s'appelait le fil d'or. Et à travers la couleur, c'est beaucoup plus une histoire de la couleur finalement que d'une histoire du fil. C'est la quête du jaune d'or.
Alors à l'inverse, Jean-Laurent Del Socorro, vous n'avez pas du tout choisi la saga, vous allez rester sur une date bien précise, donc en février 1596. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet épisode historique que vous avez choisi ?
Alors, 1596, en France, c'est la fin des guerres de religion, donc la reconquête du royaume par Henri IV, et le Sud lui résiste. Et ce qui, effectivement, l'événement est peu connu, c'est que Marseille, pendant un peu moins d'une dizaine d'années, va être une république catholique indépendante, donc elle va se déclarer indépendante, elle va vivre en autarcie sur elle-même. Et par rapport à ça, c'est intéressant, sur la question de, effectivement, qu'apporte l'histoire là-dessus? Deux choses. La première, c'est un décor, c'est-à-dire on n'a pas à réinventer un monde, c'est le monde qui existe. Et le deuxième, il y a quand même quelque chose de fascinant, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent, après l'avoir lu, on est allé vérifier, on pensait que vous aviez inventé ça, mais non, c'est vrai. Donc l'histoire, finalement, c'est vrai pour plusieurs personnages historiques qui sont dans le roman, ont une histoire beaucoup plus fantaisiste que mes personnages de fiction.
Adrien Thomas, vous avez choisi, alors il y a une année bien précise, c'est l'année 1868. Qu'est-ce que c'est cette date? Pourquoi cette date précisément?
Honnêtement, j'ai choisi cette date parce qu'elle était quelques années après la guerre de sécession, après la fin de la guerre de sécession. C'était à peu près tout ce dont j'avais besoin. J'avoue que mon roman est beaucoup plus axé sur l'imaginaire que sur l'histoire même. L'histoire sert essentiellement de canevas, de toile de fond à l'histoire que je veux raconter. C'est difficile de parler d'histoire avec les majuscules et sans les majuscules. Bref. Donc moi, j'ai plutôt utilisé l'histoire et l'année où se déroule l'histoire comme une toile de fond. Donc 1868, j'avais besoin que ça se passe dans l'Ouest américain, pas entièrement colonisé. J'avais besoin que ça se passe après la guerre de sécession parce que l'un de mes personnages est noir. Et donc du coup, il fallait qu'il y ait une logique pour qu'elle puisse chevaucher librement avec d'autres gens sans qu'on la chope et qu'on la ramène à sa plantation de coton. Enfin, j'avais besoin de quelques éléments qui rendent l'histoire crédible et logique. Mais j'avoue que c'est pas le cœur du roman, en fait.
Alors Xavier Bruce, vous aussi, vous avez choisi 68, mais mai 68. Donc là, j'imagine que c'est pas par hasard qu'on choisit la date de mai 68 pour un roman. Alors comment vous l'avez traité, en fait, cette histoire? Comment vous avez, vous, injecté de l'imaginaire? Et quelle est la part de l'imaginaire dans ce mai 68, le vôtre?
En fait, comme c'est une uchronie, c'est un peu basé sur l'idée de restituer une période historique en la modifiant ou en faisant qu'il y ait un moment un glissement qui fait que l'histoire évolue différemment de celle qu'on connaît. Moi, ça s'est imposé, en fait. À la base, il y a des personnages auxquels je pensais, parce que le roman commence en fait en 1952 avec des enfants qu'on a enfermés dans un institut. Et il y a un très célèbre neurologue qui leur impose, d'une certaine manière, un système éducatif très particulier, complètement expérimental.
Et il a existé, ce neurologue ?
Non, non, non. Non, par contre, je me suis inspiré de gens qui existaient réellement, enfin, pour créer le personnage, mais non, il n'a pas existé. Et donc dans cet institut, il leur fait subir d'une certaine manière une éducation, un système complètement expérimental qui va développer en fait leur capacité sensorielle, qui va faire d'eux des enfants non seulement surdoués, mais même qui ont des pouvoirs en fait paranormaux. Donc ça, c'est le côté un peu le côté science-fiction, quoi, du livre. Et ensuite, on les retrouve en mai 68. Et ça s'est fait, la période s'est imposée tout de suite, en fait, quand j'ai eu l'idée de ces enfants qui s'échappent de cet institut, donc qui ont été, d'une certaine manière, kidnappés par l'État français. Il fallait forcément, pour moi, qu'ils se retrouvent dans une période de grande ébullition, de où il se passe beaucoup de choses, où... Donc j'ai tout de suite eu l'idée de mai 68 parce que c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment une révolution totale, culturelle, politique, sociale, sexuelle, enfin. Et donc je pensais que comme ces enfants étaient chargés de quelque chose, peut-être pour certains d'une envie de revanche ou de... Donc ça s'est imposé à un moment comme une évidence, en fait, que c'était cette période-là, en fait, où il fallait les retrouver adultes et d'une certaine manière, par l'éducation qu'on leur a fait subir, leur simple participation aux événements va changer le cours de l'histoire.
Voilà. C'est 1952, le point de divergence qui va vous permettre l'Uchronie, c'est...
Ben, ça démarre en 1952 parce qu'on les voit enfants, en fait, donc ils ont entre 6 et 9 ans, et donc ça c'est vraiment le prologue du livre, et ensuite on les retrouve, dès le premier chapitre, en fait, on les retrouve devenus adultes, donc ils ont entre 20 et 25, et là évidemment chacun va participer à sa manière, donc certains d'une manière très violente, et ça me permet aussi de montrer tous les aspects un petit peu qu'il y a eu à cette période, c'est-à-dire comment faire la révolution. Est-ce qu'on passe par la lutte armée, ça peut se faire aussi par l'ironie, par l'humour. Donc j'ai en fait chaque personnage dans le livre, surtout les enfants en fait qui viennent de cet institut, d'une certaine manière les personnages principaux incarnent, chacun d'eux incarne une manière de faire la révolution, en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de restituer parce que je me suis rendu compte qu'en fait dans cette période ça a été effectivement très très violent, mais puis j'avais toujours en tête aussi le sourire de Daniel Cohn-Bendit, qui était une manière de faire la révolution qui était très particulière, enfin qui était très le sourire aux lèvres, quoi. Donc j'ai voulu aussi qu'il y ait des personnages dans le livre qui soient dans cette lignée. Parce que bon, après tout, Cohn-Bendit n'a jamais lancé un seul pavé. Donc il participait aux événements, mais il avait sa manière de faire la révolution. Et en fait, on peut dire que tous les personnages principaux représentent une façon de faire la révolution. Et puis un axe aussi, que ce soit la révolution culturelle, sexuelle ou carrément politique. Et où là, ça peut passer aussi par... parce que ça aussi, je voulais le montrer, la violence... Après, moi, dans le livre, mon point de vue, il est assez clair, parce qu'il y a un personnage qui dit « je », donc c'est vraiment, pour moi, le personnage qui me représente dans le livre. Mais après, j'ai voulu aussi montrer d'autres choix, c'est-à-dire des personnages qui sont beaucoup plus extrêmes ou plus violents, parce que ça représente une réalité de mai 68 aussi. Il y a des gens qui sont quand même allés assez loin, quoi. Et moi, je, en tant que romancier, je restitue les choses. Voilà, j'ai jamais de jugement moral sur les personnages. Je les suis. Voilà. Donc, s'il y en a un qui a des actes qui moi me correspondent pas du tout, je pratique pas la censure, en fait. Je suis les personnages. Voilà. À partir du moment où je les ai créés et où ils sont là, ils ont une sorte de vie, en fait. Donc, moi, je restitue ça. Voilà.
Et par rapport à ces enfants qui ont donc été modifiés, enfin formatés et modifiés dans cet institut, il n'y a pas un côté super-héros aussi avec...
Si.
Ils ont des capacités.
Si. C'est aussi ça qui m'a amusé, parce que là, le thème, c'est injecter de l'histoire dans l'imaginaire. Et c'est aussi La République des Enragés, c'est aussi un hommage à mes lectures vraiment de jeunesse, de super-héros, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup, beaucoup ça quand j'étais vraiment tout gamin, quoi. Et ça me fascinait, moi, ces histoires de gens qui avaient des super pouvoirs, Spider-Man, tout ça. Enfin, j'étais très, très, très fan. Et ça me faisait rêver. Et il y a aussi une part d'utopie dans ça, quoi. Je me suis dit, tiens, injectons dans mai 68 des sortes de super-héros, mais des fois un peu maladroits ou un peu qui ont un petit peu de mal à s'assumer, à assumer leur pouvoir ou à assumer leur passé, mais qui du coup quand même, oui, il y a un hommage, oui, en fait, il y a un hommage, oui, à des lectures d'enfance, en fait, oui.
Adrien Thomas, on suit avec vous aussi un groupe d'hommes et de femmes, alors qu'ils ne sont pas des super-héros, enfin je ne crois pas qu'ils aient ce profil-là, et qui vont traquer, alors au début on a l'impression qu'ils vont traquer des loups, enfin ils ne vont pas traquer des esclaves ou quoi, ce sont pas des marchands d'esclaves ou des chasseurs d'esclaves, on dirait qu'ils vont traquer des loups, après on nous dit que ce sont des vindigos, alors qu'est-ce que c'est exactement
Alors en fait, pour simplifier, c'est une bande de cow-boys qui va chasser des loups-garous. C'est le thème du bouquin. Le principe, c'est que c'est une bande de veneurs, donc un ordre de chasseurs de loups-garous qui est venu d'Europe et qui s'est exporté aux États-Unis suite au fait que la reine des loups-garous, Notre-Dame des Loups, s'est enfuie aux États-Unis après que ses rejetons aient été détruits de l'Europe. Donc, en gros, c'est un Allemand, en fait, un aristocrate allemand qui part former une nouvelle bande de veneurs aux États-Unis, rassemble des victimes des loups-garous ou des gens qui ont des profils à talent ou qui sont des tireurs d'élite, des éleveurs de chiens, des armuriers qui ont de quoi servir à quelque chose dans cette traque, en fait, et ils vont se lancer à la poursuite des meutes de loups-garous, ils vont les détruire à coup de balle d'argent et ils vont en parallèle traquer Notre-Dame des Loups, qui est la reine des loups-garous, la première loup-garou.
Alors pourquoi vous avez choisi le mot vindigo plutôt que loup-garou ?
Alors en fait, j'ai associé deux légendes. Les loups-garous, c'est une légende qui a une origine plutôt européenne, qui date, enfin les premiers textes de loups-garous datent de l'Empire romain, donc c'est très très vieux comme légende. Les wendigos, c'est pas vraiment associé au loup, c'est une sorte de mythe indien, de mémoire c'est algonquin, qui a tendance à rassembler... En fait, un Wendigo, c'est un homme qui a été maudit pour avoir consommé de la chair humaine, qui a été tellement poussé par la faim qu'il est du coup conduit à avoir toujours faim, à adopter une apparence monstrueuse et à continuer à traquer et tuer des humains. C'est une sorte de personnification de la faim, une sorte d'esprit de la faim monstrueux qui était très craint des populations indiennes. Et j'ai vu une sorte de parallèle entre les deux, de bestialité, de monstruosité, de tendance à s'attaquer à la chair humaine. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire comme si l'un des mythes s'était exporté dans le deuxième et s'était fondu dans le deuxième mythe.
Donc c'était important de faire intervenir une mythologie, je vais dire, locale.
Oui, il fallait qu'il y ait une logique derrière l'apparition de ces animaux s'ils venaient d'Europe et qu'ils aient été intégrés quand même par les populations locales. Ça ne pouvait pas être seulement des cow-boys, il fallait que les populations natives indiennes locales connaissent l'existence de ces animaux, enfin de ces créatures, et appris à se défendre contre elles, et appris à les intégrer dans leur imaginaire, dans leur mythe, etc. Donc dans l'histoire, le mythe du Wendigo existait avant l'arrivée des loups-garous sur le continent américain, mais l'arrivée des loups-garous était favorisée et plus facilement, entre guillemets, acceptée par les populations locales, parce qu'ils avaient déjà le mythe du Wendigo, et ils se sont juste dit « Ah bah ça y est, on a vu un Wendigo ». Donc du coup, c'est plus facile pour les loups-garous de s'intégrer dans ce nouveau territoire sans alerter tout le monde, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui ressemblait à eux.
Jean-Laurent Del Socorro, on va suivre aussi avec vous un certain nombre de personnages. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces personnages-là, en finissant par les Arbonniers ?
Alors oui, c'est un récit, alors je dis souvent à quatre voix et demie, donc quatre personnages principaux. On va voir Gabriel, donc, qui lui est un chevalier catholique, mais un ancien protestant, en fait reconverti effectivement de force dans cette époque des guerres de religion. On va suivre également le personnage d'Axel, donc Axel et tenancière d'une auberge, donc la Route Fortune, où effectivement tous les personnages vont se retrouver, un petit peu un focus qui va être le point de départ de l'histoire, mais on va peu à peu découvrir en fait qu'elle a un énorme passé de mercenaire et de capitaine de mercenaires, de lansquenet. C'est ce passé là qui va nous permettre de revoir et de reparcourir toute l'histoire de la reconquête du royaume par Henri IV via ce passé là. Nous avons également le personnage de Victoire, donc qui elle Et le personnage, j'allais dire, de Marseille, elle est née, grandie, défendu sa ville, et elle est le chef, on va dire, d'une guilde peu recommandable, dans laquelle elle gravit un à un tous les échelons pour arriver au plus haut. Et il y a Armand. Alors, donc Armand est un religieux, un soigneur d'un ordre qui est dans les environs de Marseille, et lui, il a la particularité d'avoir un savoir qui est de manipuler une pierre qui s'apparente à de la magie ou de l'alchimie, qui est relativement destructrice, qui pourrait être éventuellement également des effets de soins, qui pourrait soigner, et qui va avoir un dilemme entre l'utilisation de ce que demande de faire sa hiérarchie avec cette magie-là, et lui, en tant que soigneur, ce qu'il aimerait en faire.
Il nous manque le demi.
C'est un personnage, c'est Silas. Donc Silas, il apparaît sur 4 ou 5 chapitres. C'est des monologues face publique. Le roman a des échos de théâtre dedans. On est vraiment sur une tirade théâtrale. Lui, il agit un peu comme le cœur à la fin de chaque partie pour donner au public, pour donner au lecteur, de façon très synthétique et un petit peu humoristique, j'espère, le contexte dans lequel on se trouve. Voilà, pour faire un résumé de la situation et plonger le lecteur immédiatement dans l'ambiance. Donc lui, un personnage un peu mystérieux, effectivement, on sait qu'il travaille avec Victoire dans cette guilde des savonniers, hein, qui est parfois glissante. C'est le bras droit de Victoire. On sait qu'il vient, semble-t-il, d'Afrique du Nord, mais on n'en est pas très sûr. Voilà, un personnage un peu mystérieux.
Et donc, avec ces personnages historiquement très balisés, qu'on peut bien repérer dans notre histoire, donc il y a ces deux arbonniers, puisque Armand est accompagné de son amant, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magie, ces arbonniers, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que cette magie-là?
Alors, cette magie, j'ai voulu un récit historique très fort et une magie assez rare, diffuse et surtout dangereuse. On en sait très peu de choses en fait, et eux aussi en savent très peu de choses sur le récit. Elle semblerait que cette magie ait été ramenée des croisades, c'est via une pierre sombre qui aurait des émanations, on la garde dans une boîte de plomb. Effectivement, elle est néfaste à ceux qui l'utilisent autant qu'à ceux qui la subissent. J'ai voulu mélanger en fait l'analogie entre la radioactivité et en plus de la drogue, parce qu'en plus, quand on commence à utiliser l'arbon, ben on est addict. Donc c'est une magie relativement sale, c'est une magie relativement peu maîtrisée, et c'est une magie qui détruit de façon drastique l'utilisateur et les gens qui l'entourent. Donc oui, on comprend pourquoi cette magie-là n'est pas répandue.
Et je me suis posé la question, il n'y avait pas de drogue justement à l'époque que vous auriez pu utiliser plutôt que d'inventer quelque chose? Je sais pas, je pensais à l'opium, mais je sais pas où en était l'opium à l'époque à Marseille. Mais pourquoi vous l'avez inventé finalement, cette magie-là? Pourquoi vous avez tout inventé depuis
Parce que je voulais que ce soit entre guillemets l'élément fantastique du roman. Je le voulais très discret et je voulais pas qu'on ait j'aurais pris l'opium, j'y ai pensé un moment, c'est une très bonne question, parce que je peux prendre quelque chose d'existant et le transformer, mais donner des vertus magiques à quelque chose dans notre monde réel, c'était un petit peu décrédibiliser l'effort que j'avais essayé de faire en rendant un cadre historique réel, cohérent, j'espère assez documenté. Donc ça la magie n'existe pas, et l'objet magique, je l'invente pour effectivement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur, même sur les termes, j'invente les termes pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec ce qui est réel et véridique dans le roman.
Et alors, qu'est-ce qu'il apporte, cet élément magique, à votre intrigue? Pourquoi en aviez-vous besoin?
Alors c'est très ténu, mais c'est vous imaginez bien que sur une époque où on est en pleine guerre, où les forces armées sont épuisées d'année en année de guerre, où l'enjeu se fait à travers le nombre d'hommes sur un champ de bataille et une artillerie, la possibilité d'aligner quelqu'un qui à lui seul a une force de frappe, j'exagère un peu, mais d'un canon. Donc si vous arrivez à avoir une de ces poignées d'hommes sur votre champ de bataille, les combats sont très serrés à l'époque, hein. On est vraiment sur des demi-victoires ou des demi-défaites. Donc avoir cette force de frappe qu'on peut mobiliser dans son armée, voilà, ça fait basculer une bataille. Voilà, sans dévoiler le récit, avoir un arbonnier au sein de son armée, c'est ce qui peut déstabiliser toute l'armée adverse sur un assaut. Donc là encore, on est sur des petites choses, on n'est pas sur des surhommes qui vont raser des villes. C'est l'artillerie magique qui peut faire la différence sur quelques combats.
Alors, en vous entendant parler, on imagine que vous avez beaucoup travaillé le contexte. Vous travaillez comment exactement? Ça fait longtemps que ça vous intéresse, cette République de Marseille méconnue?
Pas du tout, en fait. Moi, je l'ai découvert en habitant à Marseille il y a quelques années. Ça me trottait dans la tête. Je trouvais que c'était un cadre historique qui était énorme. Donc, j'ai fait au fil du récit, j'ai réalimenté avec l'histoire de Marseille. Alors, pour l'aspect recherche historique, il y a eu deux choses. La première, c'est celle de contexte, c'est-à-dire les guerres de religion et à ce moment-là où on en est. Donc, ça, c'est assez compliqué. J'essaie de le restituer de façon assez synthétique dans le roman, j'espère en tout cas. Et la deuxième, c'est la spécificité de Marseille. Et ce qui est très drôle, c'est que je connais Marseille, donc j'ai un avantage. C'était un gros désavantage. Je disais, je ne sais plus, à quelques personnes que j'ai croisées en dédicace, j'ai décrit la ville comme je la connaissais, en m'appuyant sur des situations, des quartiers. Et en fait, quand je reviens sur le récit, je me rends compte que ce quartier n'existe plus ou pas encore, que la rue, elle existe bien, mais elle n'est pas aussi longue. Donc en fait, il y a eu un travail, notamment géographique au sein de la ville, où j'ai dû repartir à zéro. J'ai fait d'énormes recherches parce qu'il y a très peu de cartes d'époque, et retravailler rue par rue sur une carte d'époque pour redéfinir la ville, pour réimplanter localement. Donc ça, c'est... Personnellement, ça a été un travail qui a été délicieux, parce que du coup, voilà, on se rappuie sur des sources documentaires précises et puis incroyables. Voilà.
Donc le travail de documentation vous plaît autant que l'écriture ?
Ah oui, elle alimente le récit, c'est-à-dire du coup ça me fait rebondir. J'ai besoin d'un élément, je vais creuser un peu plus dans l'historique. L'historique est parfois plus surprenant encore que ne peut l'être le fantastique. Donc je change mon intrigue pour alimenter avec de l'historique. Moi je cite souvent le personnage de Chrétienne Daguerre, qui est un personnage secondaire du récit. Toute son histoire qui est incroyable, là on en est... chef de la Ligue catholique dans le Sud, elle trahit, elle se fait trahir, elle est emprisonnée, elle s'échappe. C'est incroyable, tout ça est vrai. Et c'est certainement le récit le plus incroyable en termes d'histoire personnelle de mes personnages. Donc voilà. Donc je dis souvent l'histoire, je dois souvent lisser l'histoire pour pas qu'on me dise là quand même République catholique, une femme qui dirige la Ligue et qui met à bas les plus grands. Enfin c'est gros, mais non, c'est historique.
Geneviève Stanger, vous aussi, j'imagine que vous faites beaucoup de recherches pour vos romans. Vous partez d'abord de l'idée de la famille et vous faites vos recherches dans ce sens, ou bien est-ce que c'est la connaissance d'une période ou d'une problématique historique qui fait que vous inventez ensuite votre histoire ?
Non, je pars d'abord de l'histoire générale, c'est-à-dire d'une documentation. Moi aussi, je m'appuie beaucoup sur une documentation. Je m'appuie beaucoup sur la documentation pour créer des personnages. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'incarner l'histoire à travers des individus. Mais cette histoire, elle prend chair vraiment avec les personnages tout de même. L'histoire reste un décor, un peu comme un tableau, comme une broderie. Hein, mais les personnages centraux sont toujours des individus. Ce n'est pas l'histoire elle-même qui est le personnage central. Et dans la dynastie des Weber, c'est cette grande famille de protestants, d'industriels protestants qui traversent donc tout un siècle, donc trois générations et deux familles en fait, parce qu'il y a la famille des industriels qui s'appelle Weber et il y a la famille Ami qui elle, c'est une famille ouvrière, syndicaliste et qui est liée au Weber d'une certaine manière que je ne dévoilerai pas ici parce que c'est aussi un des intérêts du livre. Donc ces deux familles vont traverser le siècle et créer une manière de vivre.
Et vous fouillez dans les archives, vous allez faire des recherches, vous faites des fiches
Des fiches, oui, enfin bon, je ne suis pas très ordonnée, mais je vais fouiller dans les archives. J'ai fouillé notamment dans le fonds Dolphus Mig à Mulhouse. Donc les Dolphus Mig, c'était une grande épopée industrielle de la ville de Mulhouse. Il faut savoir que Mulhouse, en 1870, c'était la Manchester de l'Est, hein, c'était une ville très très importante. C'était la ville où l'industrie textile était extrêmement florissante, à tel point qu'on la surnommait la Manchester de l'Est. Et c'est là que sont nées des grandes dynasties industrielles, dont les Dolphus Mig. Mais bon, je ne parle pas spécifiquement des Dolphus Mig. J'ai inventé donc ces Weber qui vont connaître l'âge d'or de l'industrie et laisser leur nom quelque part.
Donc, vous êtes inspiré de personnages réels ou pas pour créer ces familles ?
On s'inspire forcément de personnages réels, mais ça reste dans l'inconscient. Un auteur est de toute façon aussi quelqu'un qui est le fruit de ce qu'il a lu. Par exemple, j'ai l'impression qu'en lisant ce livre, je rendais un peu hommage à Eugène Sue dans ses Mystères de Paris, parce qu'on est nourri de ces grandes fresques. Et donc, je me suis inspirée de personnages réels dans le sens où j'ai pris des personnages historiques comme par exemple Guillaume, parce que ça commence par la... C'est-à-dire que l'histoire est omniprésente. Hein. Ça commence par la guerre franco-prussienne, ensuite il y a la belle époque allemande, parce que l'Alsace est allemande, ensuite il y a la guerre de 14, et ensuite il y aura l'entre-deux-guerres, et ensuite la guerre de 40, et l'après-guerre. Donc c'est vraiment une grande fresque... historique.
Vous aviez envie aussi de parler, j'imagine, de la position très particulière des Alsaciens avec toutes ces guerres donc, qui se sont succédées et, une fois appartenues à la France, après à l'Allemagne, et comment vont-ils se positionner justement pendant ces guerres-là ? Où on va les combattre, par exemple ? De quel côté ?
Oui, parce que justement, dans ma famille, en 14, une partie de la... Certains garçons de la famille, certains jeunes hommes vont aller du côté français et d'autres vont combattre avec le Kaiser. Donc ils vont être face à face. Et ça a été la particularité de l'Alsace. Et en 1939, il y a eu les malgré nous, donc une partie des Alsaciens qui a été incorporée de force. Et il y en a d'autres qui sont devenus résistants, qui ont rejoint des maquis. Tout ça, je le montre aussi.
Et pour vous, l'histoire, est-ce que c'est un guide ou est-ce que c'est une contrainte ?
Non, c'est plutôt un guide. C'est vraiment la matière sur laquelle on s'appuie. Je pense que quand on écrit un roman historique, on peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est aussi très agréable de pouvoir s'appuyer sur des éléments concrets. C'est comme un fil, c'est le fil d'or finalement. L'histoire est aussi le fil d'or de cette épopée.
Adrien Thomas, vous avez écrit une saga de fantasy avant celui-là, avant si je ne m'abuse, La Geste des Six Royaumes, dans laquelle en fait vous créez un monde. Et en fait, ce monde-là, il a ses contraintes. C'est un peu comme un cadre historique aussi. Est-ce que ça fonctionne aussi de la même façon ? Une fois qu'on a créé son monde de fantasy, il va apporter certaines contraintes, un peu de la même façon que l'histoire va guider ou...
Oui, bah oui, il faut forcément qu'un monde de fantasy, malgré ce qu'on peut croire quand on ne connaît pas trop ce genre littéraire, on a tendance à croire qu'on met des dragons, des elfes quelque part, et puis dès qu'il y a un truc qui colle pas, on dit « ta gueule, c'est magique », et ça passe. Et en fait, non. En fantasy, il faut au contraire que les mondes qui sont créés aient des règles et des lois fonctionnent d'une certaine manière. On doit créer des peuples, on doit créer des races, on doit créer de la politique, de l'histoire, des géographies qui sont censées rester un minimum fixe. Et on ne peut pas les découdre et les recoudre pour que ça arrange l'histoire. C'est-à-dire que le contexte, que ce soit en fantasy comme en roman historique, est le même. Il faut s'y tenir. Il ne faut pas dire en roman historique, on peut pas dire ah bah finalement non, Hitler il n'a pas existé, c'est pas grave, j'ai pas envie qu'il se passe en 40, je fais autre chose. Non. Et c'est de la même manière en fantasy, quand on a décrété au cours d'une histoire que je sais pas, tel royaume était dirigé par un roi méchant et cruel, qu'on fait une deuxième histoire qui se passe au même moment, puis on découvre non, en fait c'est une reine, elle était sympa. Ça n'a aucun sens, aucune crédibilité. Il faut s'appuyer forcément sur un cadre, un contexte historique, même si le cadre historique est inventé.
Qu'est-ce qui est plus difficile finalement alors
Je pense pas que je pourrais trancher là-dessus. J'ai fait quelques recherches historiques pour ce roman-là. Je suis pas habitué à faire de recherches historiques, donc j'y suis allé complètement à l'arrache. J'ai probablement laissé traîner quelques erreurs. On m'a fait remarquer un ou deux trucs qui collaient pas forcément exactement. Créer l'univers de A à Z, ça a un gros intérêt, c'est très intéressant, c'est très sympa, on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc c'est juste
chez vous,
je fais exactement ce que je veux, c'est chouette. Mais il faut que ce soit quand même logique, justifié, que la magie fonctionne de la même manière pour tout le monde, que les guerres se soient effectivement pas de telle manière. Enfin, c'est quand même un certain nombre de faits qui doivent être établis. C'est très chouette à créer, c'est très intéressant à créer. Ça demande par contre, en fait, la recherche historique demande un travail de fouille, de recherche, de compilation. La création d'un univers demande un travail d'imagination et de construction logique. C'est-à-dire que l'histoire est plus ou moins déjà logique. Elle s'appuie sur des causes, des conséquences qui sont crédibles, qu'on peut concevoir, qu'on peut comprendre. Pour créer un monde, il faut adopter les mêmes règles. Il faut que ce qui se passe ait l'air logique. Si un groupe de 10 mecs réussit à vaincre une armée de 200 000, on a plutôt intérêt d'avoir une bonne justification. Il faut qu'il y ait forcément...
Il vous faut des arbonniers.
Voilà. Voilà. C'est, évidemment, il faut éviter aussi justement d'utiliser trop l'argument. C'est un vrai argument. Le ta gueule, c'est magique. C'est un vrai argument qui est, à mon sens, parfois trop utilisé, qu'il faut éviter à tout prix.
Parce que, par exemple, dans votre roman, il y a des montages et des démontages d'armes. Alors ça, il y a des spécialistes sur les armes.
Je me suis fait notamment recadrer sur sur l'utilisation d'une des armes. Je me suis renseigné sur les armes à feu de l'époque, sur comment elles fonctionnaient, à quoi elles ressemblaient, quel était leur poids, etc. Et j'ai complètement zappé de réfléchir, parce que pour moi, les Colts, ça a 6 coups, donc il y a tout qui peut fonctionner à peu près pareil. Et j'utilise une carabine, donc qui est la Springfield de 1861. Et dans le premier chapitre, ça commence bien, je fais en sorte qu'un de mes personnages tire 2 coups avec cette carabine, sauf que c'est une carabine à 1 coup. Voilà, donc je me suis fait démolir. Il n'y a pas eu grand monde, parce que honnêtement, les spécialistes d'armes du 19e siècle aux États-Unis ne courent pas trop les rues. Mais j'ai quand même 2 personnes qui m'ont dit, au fait, tu sais que... Oui, je sais. Voilà. Donc, quand la version révisée de Notre-Dame des Loups, quand elle sortira, j'ai fait une petite modification sur cette arme-là. Voilà.
Et vous, Xavier Bruce, en fait, c'est pire, j'imagine, parce que mai 68, vous pouvez avoir des gens qui viennent vous voir et qui vont vous dire, mais j'y étais, moi, et c'était pas ça.
Oui, c'était le risque. Mais après, bon, c'est quand même une uchronie, c'est quand même de la science-fiction, donc il y a un contexte historique. Mais en fait, moi, le travail de documentation que j'ai fait, j'ai lu quelques livres. Je voulais pas trop lire de livres de témoignages directs, justement, de gens qui y ont participé, parce que j'étais quand même dans l'idée de jouer quand même avec l'histoire, de réinventer certains épisodes. Donc pas être dans quelque chose de réel, enfin de vraiment historique au sens pur et dur. Et en fait, comme j'avais cette idée de ce groupe d'enfants qu'on retrouve ensuite en mai 68, toute la lecture de la documentation, je l'ai fait avec cette idée en tête, en fait. C'est-à-dire que j'ai sélectionné, j'ai pris vraiment des livres où on restitue les faits bruts. C'est-à-dire pas des gens qui partaient dans des interprétations sur mai 68, simplement des textes historiques où on disait, voilà, telle date, il s'est passé ça, voilà. Et j'ai ensuite, en lisant la documentation, les choses que j'allais garder pour le roman, ça se faisait de soi-même parce que j'avais les personnages en tête, en fait. Donc je me disais, ah ben ça, c'est Antoine qui va le faire. Par exemple, la première personne qui a lancé un pavé, le premier étudiant qui lance un pavé sur un CRS, on n'a jamais su qui c'était. Alors, dans la réalité, c'est un type qui est passé à moto, qui a lancé un pavé, qui n'a jamais été appréhendé, qui ne s'est jamais manifesté non plus, donc, à ma connaissance, on connaît pas son identité. Évidemment, quand j'ai lu ça, notamment, c'est très très bien restitué dans le bouquin de Laurent Geoffrin sur mai 68, parce qu'il commence aussi là-dessus. Et je me suis dit, ça, c'est forcément mon personnage d'Antoine, qui lui est déjà enfant et d'un caractère très violent et qui en plus a la capacité de pouvoir guider les objets à distance. Donc du coup ça démarre immédiatement, on a tout de suite le côté les pouvoirs, parce que lui c'est un des personnages qui les utilise, qui n'hésite pas à les utiliser devant des gens, alors que d'autres enfants de l'institut pour rester incognito ont tendance à utiliser leurs pouvoirs vraiment mais en dernière instance quand ils sont vraiment obligés de le faire. Et donc, en fait, oui, le travail de documentation, il s'est fait comme ça. C'est-à-dire que j'avais déjà l'idée. Et en fait, j'ai sélectionné dans mes 60... Parce qu'en plus, c'est une période tellement riche, c'est tellement ample. Je me sentais pas de restituer tous mes 68. Alors, donc il faut quand même garder en tête que c'est quand même de la science-fiction et que c'est quand même une uchronie. Donc, c'est quand même jouer avec l'histoire. Par contre, ce qui est vrai dans le livre, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont réelles. Et là, je pourrais presque rejoindre ce que disait Jean-Laurent, c'est que c'est pas forcément ce qu'on imagine qui est réel. Il y a des choses que je raconte dans le livre qui sont assez hallucinantes et qui en fait sont vraies, qui se sont à peu près passées de la manière dont je le restitue dans le livre. Je sais pas, par exemple, il y a notamment la première fois où on a parlé de Daniel Cohn-Bendit, c'était pas du tout pour des questions politiques, c'était avant mai 68, et en fait c'est parce qu'il a interpellé un ministre, enfin un secrétaire d'État qui était venu pour visiter une piscine à Nanterre, et il l'a interpellé, non pas pour lui parler de questions sociales, politiques ou quoi que ce soit, il lui a parlé, en fait, il l'a interpellé pour l'engueuler, en fait, sur la question de la sexualité des étudiants, puisqu'à l'époque à Nanterre, il y avait le dortoir des filles, le dortoir des garçons. Et c'était toute une histoire parce qu'à telle heure, il était impossible pour les garçons de rejoindre les filles dans leur dortoir. Bon, alors,
donc ça, c'était véridique.
Ça, c'est tout à fait véridique, oui, oui. Et ça explique aussi mai 68. Et la première fois que Cohn-Bendit a fait un acte comme ça d'incivilité, on va dire, puisqu'il a pris à partie un ministre qui était impensable à l'époque, c'était pour la question de la sexualité des étudiants. Donc c'est intéressant aussi parce que ça montre un petit peu l'avant de mai 68 et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments comme ça que je pouvais mettre dans le roman et donc oui, il y a quand même beaucoup de choses réelles, oui, beaucoup de faits qui sont réels en fait.
Et comment vous choisissez les personnages réels qui interviennent? Parce qu'il y a des politiques, députés, etc. Et il y en a qui ont existé. Alors à chaque fois que je voyais un nom, je tapais sur Google pour savoir si celui-là, il avait existé ou pas. Comment vous choisissez, vous, ces gens qui interviennent? Et comment vous les traitez aussi, ceux qui ont effectivement existé?
Alors en fait, il y a... Bon, j'ai fait intervenir Cohn-Bendit dans le livre. Bon, c'était un petit peu une évidence, quoi, parce que bon, comment restituer mai 68 sans qu'à un moment on voit passer Dany le Rouge. Bon, c'était. Mais j'ai essayé de mettre ça en. Je voulais pas le faire gratuitement, enfin que ça soit juste parce que il y avait l'obligation de le faire. Donc j'ai trouvé en fait ce là aussi qui est un fait réel en fait, c'est-à-dire que sur une des soirées où il y a eu les barricades, il y a ce qu'on appelait les loulous de banlieue en fait qui venaient du 93 et qui étaient montés sur Paris pour participer donc aux affrontements et qui eux étaient venus avec des cocktails Molotov, donc vraiment dans l'idée de tuer du flic en fait. Et donc Daniel Cohn-Bendit s'est retrouvé, comme je disais tout à l'heure, devant cette comment on fait la révolution et jusqu'où on va. Et évidemment, il a eu très très peur et en fait, il a fallu qu'il négocie avec eux pendant des heures pour qu'ils n'utilisent pas les cocktails Molotov. Et bon, moi, ça m'a semblé intéressant de parce que là, on est dans une thématique qui rappelle beaucoup de choses du présent. Quand il y a des émeutes en banlieue, c'est souvent dans le 93 aussi. Donc je me suis dit, là, il y a un rapport avec le présent qui est intéressant. Et bon, pareil pour le personnage que j'ai inventé, mais qu'à moitié, qui s'appelle Startel, qui est un jeune secrétaire d'État, qui est un personnage assez opportuniste et assez cynique et très ambitieux. Et bon, c'est vrai que dans le livre, je me suis un petit peu amusé parce que bon, Jacques Chirac était secrétaire d'État dans le gouvernement de Pompidou, et je me suis un petit peu amusé là aussi à mettre ça en rapport avec le présent parce que c'est vrai que le personnage rappelle beaucoup Jacques Chirac jeune au début, et puis petit à petit, on le voit évoluer vers quelque chose d'encore un petit peu plus cynique, on va dire, et il commence à ressembler à la fin du livre beaucoup à Nicolas Sarkozy, donc ça fait. Donc ça, c'est aussi des choses que permettent l'uchronie, c'est de... Alors après, le lecteur le voit ou le voit pas, mais bon, il y a quand même beaucoup d'allusions qui sont assez... Bon, c'est direct, quoi. Et c'était quand même aussi l'idée d'écrire sur mai 68, mais pas d'écrire uniquement sur le passé, mais de mettre ça aussi en rapport avec des choses très présentes. Voilà.
Jean-Laurent Del Socorro, le fait que vous travaillez sur une période beaucoup plus reculée, est-ce que ça vous laisse plus de liberté avec les personnages réels, notamment, et pas forcément avec les événements, mais avec les personnages réels, et du fait que ça soit aussi une période méconnue, votre fidélité à l'histoire, vous la voyez comment? Et aux gens, aux individus existants?
Alors, la distance dans le temps, non, ne joue pas. Le seul avantage que j'allais dire, c'est plus les événements sont anciens, moins j'ai de risques qu'on me dise mon fusil à deux coups, en fait, il n'y en avait qu'un. Voilà, je pense que des spécialistes de la République de Marseille en 1596 sont limités. Mais non, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé d'appréhender la matière histoire, il y a quand même une question d'honnêteté par rapport au lecteur aussi. C'est-à-dire on veut restituer un contexte historique, et si on lui affirme quelque chose... j'essaie de faire mon mieux. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se tromper. Hein. Il y a peut-être des éléments historiques qui sont un peu biaisés, ou des choses qui sont légèrement raccourcies, notamment temporellement sur des détails pour que ça tienne dans le récit. Mais sinon, je pense qu'il faut, à partir du moment où on a dit l'histoire, on le prend comme cadre, l'histoire, on va le restituer de la façon la plus juste possible, il faut être sincère auprès du lecteur, sinon il y a... On brise sa confiance. Ouais, je pense que c'est pas parce que c'est plus éloigné qu'on peut avoir plus de liberté.
Et en matière de personnages, alors vous avez quasi tous choisi un peu la même façon de montrer, voire de donner la parole aux personnages les uns après les autres. Alors ce qui me semble un peu risqué, c'est ce que j'appellerais le réalisme psychologique. Est-ce que c'est important donc, pour vous, par exemple, que vos personnages soient des personnages du XVIe siècle? Est-ce que la fidélité psychologique aussi, non seulement à l'époque, mais aussi aux personnages, est importante? Et comment vous travaillez ça?
Alors, la particularité, c'est qu'il y a par contre un décalage entre la manière d'écrire les personnages principaux, pas historiques pour le coup, et le cadre historique. On est sur un cadre du fin du XVIe, mais j'ai une écriture très contemporaine. Je ne m'attache pas à faire une écriture d'époque. Et mes personnages principaux sont... eux ne pourraient pas exister, je pense, à l'époque. Ils ne sont pas réalistes dans leur époque. J'entends que Axel est une femme noire qui dirige une bande de lansquenets. Je pense qu'à l'époque, ce serait compliqué. J'ai des personnages homosexuels qui s'assument et qui peuvent évoluer dans ce cadre-là. Je pense que ce serait encore plus compliqué qu'aujourd'hui, ça. Je voulais, à travers cette diversité de personnages, en fait, faire écho vraiment, pour le coup, à notre société au XXIe siècle. C'est-à-dire que, paradoxalement, la psychologie des personnages, leur représentation ethnique, leur orientation politique, sexuelle, c'est notre monde à nous. Donc il y a vraiment un écho. Et les problématiques que je soulève, qui sont le genre, le rapport à la religion et à sa liberté de religion et les extrêmes que ça peut entraîner, voilà, c'est ouvertement des problématiques d'aujourd'hui.
Adrien Thomas, vous aussi, vous donnez la parole en fait à chacun de vos personnages dans une structure qui a l'air répétitive, mais très finement, ne l'est pas. Je ne veux pas me vendre la mèche, mais c'est très très intéressant ce final. Donc alors, comment est-ce que vous avez voulu que ils soient très distincts les uns des autres avec ce procédé, en leur donnant la parole à chaque fois, et comment vous avez travaillé ça?
Moi, j'ai tendance à fonctionner, j'aime beaucoup fonctionner par archétypes et les détourner de manière à les rendre plus humains, plus intéressants. Dans mes personnages, il y a une sorte d'archétype, le salaud de base qui est le chef du groupe. Il y a l'aristocrate allemand mystérieux à lunettes noires qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il y a le jeune cow-boy idéaliste un peu con-con qui se balade, qui ne sait pas trop pourquoi il est là. Il y a la dresseuse de chiens, ancienne esclave qui parle quasiment pas. Il y a l'éclaireuse indienne. Enfin, c'est que des archétypes qu'on pourrait imaginer. Enfin, c'est super facile à visualiser. Mais j'ai essayé de faire en sorte que chacun de ces personnages ait une histoire, un passé, un fonctionnement qui les éloigne un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, dans l'idéal. Alors, je sais pas si ça marche à tous les coups, mais apparemment, les retours ont l'air assez bons, malgré le fait que j'ai utilisé des fusils qui ne marchent pas.
C'est le fait de leur donner la parole aussi à chacun, c'est leur donner une voix particulière.
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que chacun des personnages parle à la première personne du singulier, chacun donne son point de vue, et du coup, à chaque fois qu'ils donnent son point de vue, ils éclairent aussi les points de vue de ceux d'avant. Parce que ceux d'avant avaient une vision très claire de leurs compagnons, de comment ils voyaient les choses, de comment ils fonctionnaient. Et ceux d'après donnent un nouvel éclairage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est que pour moi, il n'y a jamais qu'une seule histoire possible. Ça n'existe pas une seule histoire, en fait. C'est l'histoire écrite par les vainqueurs et par ceux qui ont la possibilité de raconter l'histoire. Et si plusieurs personnes racontent la même histoire, étrangement, on n'arrive pas forcément à arriver aux mêmes événements et aux mêmes choses qui se passent. Et c'est ce que j'aime bien travailler, c'est avoir des personnages qui se contredisent, moi je le vois pas du tout comme ça. Certains personnages apprécient un des autres alors que l'autre le déteste. Enfin, c'est genre de fond et ils s'en rendent pas compte. Et je trouve ça intéressant de voir que les points de vue sont multiples quoi qu'il arrive. Et l'histoire unique, c'est quelque chose auquel je crois pas. Pour moi, c'est l'histoire est racontée par les vainqueurs et par ceux qui savaient écrire. Voilà.
Xavier Bruce, donc vous nous l'avez dit un peu tout à l'heure, celui qui dit je, c'est vous, parce que tous les autres, donc, on change de focalisation à chaque fois, comme ça, pour les chapitres. Celui qui dit je, c'est plus vous ?
Oui, enfin, je sais pas, c'est venu comme ça, en fait. J'avais fait la même chose sur le premier roman. J'avais besoin d'un personnage qui soit, moi, au moment où j'écris le livre, et puis dans le contexte, en fait, c'est-à-dire qu'il est peut-être les réactions que moi j'aurais dans le même contexte ou enfin donc il y a ça me vient naturellement en fait j'ai besoin de ça fait comme une porte d'entrée quoi dans le voilà
vous voulez vous inscrire dans cette histoire
oui enfin c'est pas conscientisé comme ça quoi ça se fait comme ça, spontanément, il y a forcément un des personnages qui dit « je » et qui me ressemble beaucoup plus que les autres, en fait. Voilà. Après, alors du coup, le rapport que j'ai avec les autres personnages, c'est un petit peu autre chose. C'est vrai que je suis pas... j'ai peut-être un petit peu plus de distance par rapport à eux, mais pas vraiment non plus, en fait. Mais oui, je sais pas trop analyser ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. Mais je le fais. J'ai besoin de le faire. Voilà.
Geneviève Sanger, pour terminer, est-ce que, par exemple, les sœurs Louise et Lucille sont résolument des femmes du 19e siècle, de cette fin du 19e siècle ? Est-ce qu'elles elles représentent cette période-là ?
Je crois qu'elle représente vraiment cette fin du 19e dans le sens où
Louise
accepte ce mariage arrangé, mais en même temps, elle ne renonce pas à l'amour. C'est-à-dire qu'elle accepte en espérant pouvoir aimer son mari, en espérant pouvoir être aimée, mais bon, la réalité sera tout à fait différente. Mais même dans cette réalité différente, elle n'abandonnera jamais ce désir qu'elle a d'être aimée et ça arrivera. Voilà. Et pour rebondir sur ce que vous disiez... Je crois qu'un personnage de roman, c'est à la fois un archétype et un individu. C'est-à-dire qu'il reprend des éléments qui existent de manière très forte et en même temps, il l'affine. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du roman.
Eh bien, il me reste à vous remercier tous les quatre pour cette rencontre. Vous allez pouvoir retrouver les auteurs sous la bulle du livre pour des dédicaces. Merci beaucoup à tous les quatre. À bientôt.